Alors, bonjour à toutes et à tous, que vous soyez à l'Université Laval ou à l'UQAM. En fait, la conférence débat avec Christophe Magis, je vais dire quelques mots sur Christophe dans quelques instants, a lieu dans un double cadre, à la fois dans le cadre des activités de l'axe 1 du Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, la formation et la société consacrée aux mutations des médias et de la culture, et donc dans le cadre d'un cours de maîtrise doctorat que Arnaud Anciot donne donc à l'Université Laval. Le titre de la présentation de Christophe Magis, c'est « Penser les mutations de l'industrie musicale, l'économie politique à l'écoute des textes ». Je vais dire quelques mots sur Christophe juste avant de lui donner la parole et peut-être aussi ajouter quelques éléments sur le format de la séance. Christophe Magis donc, est maître de conférence à l'Université de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, et chercheur au SEMTI. Il est entre autres auteur de l'ouvrage paru en 2015. L'ouvrage s'intitule ainsi « La musique et la publicité, les logiques socio-économiques et musicales des mutations des industries culturelles » aux éditions Marais Martin à Paris. Et il est également co-éditeur d'un ouvrage à paraître en 2017 avec Véronica Zaghi, ou Zaghi, je ne sais pas, Zaghi. Et l'ouvrage donc dont il est co-éditeur avec sa collègue a pour titre, ou va avoir pour titre, donc, la critique au risque de l'engagement, également donc aux éditions Marais et Martin. J'ai proposé à Christophe de faire son intervention en deux temps. Le premier temps qui prenne environ une heure pour nous présenter son analyse en ce qui concerne donc les mutations de l'industrie musicale, et après donc on consacrera le temps à peu près équivalent donc aux échanges. On commencera à l'Université Laval et puis ensuite on viendra à l'UQAM. Voilà, Christophe, donc c'est à toi, bienvenue.
Eric, oui. Leur micro.
Ah, est-ce que pendant la présentation de Christophe, est-ce que c'est possible à l'Université Laval de couper le micro? Peut-être qu'on a un bruit de fond là actuellement, voilà.
C'est prévu.
Okay. Bon, mais Christophe, donc c'est à toi pendant environ une heure.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric, pour cette présentation. Merci pour cette invitation. Merci, en fait, notamment de me permettre, une fois de plus, cher Eric, de venir agiter mes marottes sur l'importance de l'analyse des productions culturelles dans l'étude des mutations des industries culturelles. Pour cette conférence, en fait, et c'est ce dont on parlait hier en privé, j'ai essayé de faire une synthèse d'un ensemble de travaux qui ont tous un lien avec le Canada, c'est-à-dire j'ai commencé à faire les premiers travaux lors d'un colloque en 2012, ici même, dans le cadre du congrès de l'ACFAS, et puis j'ai fait une conférence à Queens quelques années après, qui m'a permis de continuer à réfléchir ces questions-là sur la musique de publicité, et puis dans l'ouvrage avec Fabien Grandjean, j'ai également, disons, rebelote, j'en ai remis une couche, et puis à nouveau dans un séminaire où tu étais intervenu à Paris 8, et puis à nouveau au printemps dernier, bon, voilà, j'ai essayé de faire la synthèse. Néanmoins, je me permets ça parce que c'est pas si fréquent qu'on puisse le faire. On pourra trouver l'essentiel de ce que je vais dire aujourd'hui dans mon ouvrage, dont Eric vient de parler, « La musique et la publicité » aux éditions Marais Martin. Et je prépare également un petit ouvrage, disons, sur l'analyse des musiques populaires qui reprendra une partie de ce que je vais raconter. Alors, j'aurais eu vraiment beaucoup à dire. J'ai dû opérer pas mal de choix, y compris même par rapport à au petit résumé que j'avais donné. En fait, j'ai décidé de me concentrer, en tout cas pour ce qui est de l'analyse empirique véritablement, sur la musique de publicité précisément, parce que c'est vraiment le secteur où ce que je vais raconter est le plus visible. Mais c'est tout de même très très... disons, les logiques dont je vais parler sont des logiques assez structurantes, me semble-t-il, dans les mutations de l'industrie musicale. N'hésitez pas aussi, dans la conversation, à me demander d'aller plus loin. J'aurais pu parler du rapport entre les stars et l'économie, entre économie et esthétique, avec les catégories de stars, de genre, etc. J'ai tout un tas de matos, si je puis dire. Donc si vous voulez aller plus loin, il n'y a aucun souci, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, dans tous les cas, Ce que je voudrais dire, en fait, ce que je vais essayer de vous montrer voilà, le plus précisément possible, c'est que l'analyse des mutations de l'industrie musicale ne peut se limiter à la seule socio-économie. Une pleine compréhension des mutations à l'œuvre nécessite d'aller au-delà de la seule économie ou sociologie. Elle doit intégrer le culturel. Aussi, alors, le sommaire qui est le mien est un peu long, mais voilà, pour que vous ayez une idée de comment vous repérer, je vais vous dire deux, trois mots. Je vais essayer de passer assez vite là-dessus parce que disons, ça reprend une partie des choses que j'avais dit au printemps dernier ici, en ces lieux. Mais voilà, je parlerai un peu du rapport des théories des industries culturelles à l'étude des productions. Et ensuite, on analysera la musique de publicité, justement, et on regardera eh bien, quels sont les liens entre les logiques socio-économiques et les logiques culturelles, les logiques esthétiques et les contenus, entre guillemets, eux-mêmes. Voilà, donc je commence sans plus tarder. Disons que, bon, vous le savez, à mon avis, ici, tout à fait clairement, donc je ne vais pas vous faire l'affront de revenir trop là-dessus, mais l'étude des industries culturelles dans le monde francophone a été structurée par une approche tout à fait particulière qu'on appelle économie politique de la communication. Et la particularité de cette approche, c'est de se refuser à analyser l'ensemble des industries de la culture et de la communication d'après les seuls outils de l'analyse économique, et notamment l'économie industrielle traditionnelle, parce que eh bien, ces industries et leur production eh bien, sont très importantes dans la compréhension que les sociétés se donnent d'elles-mêmes. C'est ce que dit Moscou, je crois que c'est la meilleure manière de le dire. En plus de sa capacité à générer de la plus-value à la manière des autres marchandises, la communication, on pourrait dire la culture, renferme des images et des symboles dont le sens participe à forger les consciences. En d'autres termes, culture, communication, médias, tout ça, c'est aussi par là que se diffusent des idées qui, à un moment donné de l'histoire, peuvent devenir des idées dominantes, avec lesquelles les individus vont se réfléchir eux-mêmes et réfléchir leur être au monde. Le fait qu'on sache comment se comporter en tant qu'individu, homme, femme, etc., aujourd'hui, eh bien c'est aussi parce qu'on a regardé, je sais pas quoi, Hélène et les garçons, je sais pas quel feuilleton, etc., écouter tel type de musique, etc., etc. Mais bien sûr, ces idées et ces symboles, en régime capitaliste, eh bien, sont aussi produits et vendus dans une perspective d'entreprise capitaliste. Et donc, c'est là que s'intègre l'économie politique. Je reprends un extrait du Donald de Matlar et Dorfman. Il n'y a plus, parlant de Disney, que sa cote en bourse. Les créations et les symboles Disney font partie du patrimoine culturel de nos contemporains. Ces personnages ont été introduits dans chaque foyer, ils sont accrochés au mur, ils s'embrassent sur les plastiques, les oreillers, nous paient de retour en nous invitant tous à nous joindre à la grande famille universelle de Disney, etc. C'est-à-dire que, alors même que, quand on parle de Disney, ben, on peut parler tout de suite gros chiffres, ben, il n'y a pas que ça. L'accès qu'ont l'essentiel des individus à Disney, c'est pas gros chiffres. C'est « j'ai pleuré lorsque Mufasa est mort dans le Roi Lion ». C'est... je sais pas quoi. Et donc, du coup... Pour analyser ça, la réflexion francophone sur les industries culturelles s'est attachée à penser l'industrialisation de la culture et les problématiques qu'elle porte avec une volonté, disons, de ne pas se limiter à la question économique. Une volonté, je dis bien. Et en cela, les penseurs se sont appuyés, même si c'est d'assez loin, sur la perspective critique des travaux de l'école de Francfort, sur l'industrie culturelle au singulier, mais avec un problème, justement, c'était pas assez économique. Et donc, du coup, il a fallu le passer au pluriel. Et ça, c'est un point essentiel. Et c'est ce qui me paraît être le point le plus problématique. C'est-à-dire que on va chercher à réfléchir l'économie des industries culturelles en allant au-delà de l'économie et en s'appuyant sur une approche, tout en reprochant à cette approche de ne pas être assez économique. Vous voyez ? Vous comprenez l'aspect cocasse de la chose. Parce qu'en effet, l'analyse au début chez Adorno, Horkheimer, Marcuse, Zonretel, etc., c'était une réflexion sur les changements dans les œuvres d'art. L'industrie culturelle, à l'époque où les techniques, la rationalisation économique de leur production avaient changé. Et donc voilà. Du coup, l'aspect économique n'était pas aussi essentiel, disons, que ses propres manifestations culturelles. L'intérêt, c'était de penser les rapports entre les bases économiques et la vie culturelle quotidienne telle qu'elle pouvait être vécue par les individus. L'aspect de raffinement de savoir si dans telle industrie ça fonctionnait exactement selon ces logiques-là n'était pas essentiel. L'idée, c'était de penser le capitalisme plutôt dans son ensemble. Or, l'économie politique de la communication a remis en avant cette question économique. Tiens, bon, industrie culturelle à Dornhorkheimer, allons voir sur le terrain, nous sommes des socio-économistes, on fait du terrain, machin, allons voir sur le terrain, où est-ce qu'elle est, cette industrie culturelle? Ah bah, il n'y en a pas. Par contre, il y a des industries culturelles qui fonctionnent de manière assez différente. Il y a plusieurs secteurs, plusieurs filières, cinéma, télévision, musique, édition de livres, etc. Et chacun de ces secteurs ne répond pas exactement aux mêmes logiques économiques. Et donc, on a proposé la modélisation socio-économique pour appréhender de manière différente ces logiques. En réalité, il me semble que le reproche qu'on peut faire... ne faites pas dire ce que je vais pas dire. L'approche en économie politique et communication est majeure. Mais disons qu'à ce niveau-là, il me semble qu'elle passe un peu à côté de ce qu'elle cherche à faire. C'est-à-dire qu'en cherchant à être moins économiste, ça reste quand même, de l'économie. En cherchant à être interdisciplinaire, on a limité l'interdisciplinarité à une simple socio-économie. Alors même que, encore une fois, le but de l'économie politique de la communication, c'est d'investir les problématiques économiques, les logiques sociales des acteurs, les représentations idéologiques qui sont les leurs, éventuellement leur représentation politique aussi, tout en replaçant ces mutations, et les mutations des industries culturelles, dans la perspective plus large des mutations du capitalisme, en prenant l'interdisciplinarité. Sauf que, il faut reconnaître que, l'étude des industries culturelles s'est éloignée d'une réflexion à partir des contenus culturels, des contenus symboliques, qui étaient pourtant un point majeur de la réflexion initiale. Et moi, ça me paraît étrange, parce que si on veut penser l'articulation de l'économique avec justement la formation des consciences, l'idéologie véhiculée par les symboles, etc., eh bien, ne faut-il pas aller jeter un œil à ces symboles? Si le projet, c'est de réfléchir ces possibles formations idéologiques, comme c'est le projet, général de l'économie politique, et notamment de l'économie politique américaine, d'ailleurs, c'est là qu'il y a aussi un déplacement avec l'économie politique plus française québécoise. Ne faut-il pas aller jeter un œil à ces symboles? Et en fait, dans le déplacement de l'industrie culturelle au singulier, qui entendait englober le tout depuis les œuvres d'art, dans une réflexion sur et à partir des œuvres d'art, eh bien on est aussi sorti d'une conception de la réflexion à partir de la critique d'art. Donc en fait, on est arrivé à une sorte de division du travail, si vous voulez, au sein des analyses des industries culturelles, élément que justement on cherchait pourtant à dépasser avec l'interdisciplinarité. C'est-à-dire que vous avez d'un côté une analyse de la production, principalement pour les économistes, les socio-économistes, et puis plutôt de la réception pour les sociologues. Et de temps en temps, on accepte le fait qu'il y aurait peut-être un truc au milieu. Mais c'est pas très clair. Et en général, on l'appréhende plutôt depuis chaque perspective. Soit pour nous, en économie politique, plutôt depuis le côté de la production, avec ce fameux terme de contenu. Les contenus. Alors ce terme est hautement problématique pour moi. Vous le savez, dans l'essentiel des travaux sur les industries culturelles, et notamment sur l'industrie musicale, on parle de contenu. C'est un terme générique, dérivé du langage informatique, un software vs hardware, qui donne aussi par ailleurs les termes de soft power, même si ce n'est pas aussi utilisé dans l'économie politique. Et en fait, si vous voulez, ce terme, il a une histoire là aussi. C'est que les premières industries culturelles, presse de masse, édition, production discographique, etc., se sont construites comme des industries offrant un accès à des programmes au moyen d'un support ou d'un dispositif technique. Du coup, eh bien, les problématiques que la socio-économie a posées ont toujours tourné autour de l'articulation entre ces divers éléments. Entre ceux qui possèdent les moyens d'accès aux produits culturels, les réseaux par exemple, ceux qui régissent la fabrication des matériels qui permettent l'usage et les producteurs des programmes eux-mêmes. Conceptuellement, je vous ai mis un petit rappel de Miage ici, conceptuellement, cette catégorisation présente l'avantage de se fonder sur les grands secteurs des industries de la communication et de mettre en évidence une tendance majeure, le déplacement vers les contenus, ainsi que les stratégies des opérateurs de réseau et des principaux constructeurs de matériel en direction précisément des industries de contenu. Par contre, elle est relativement inopérante lorsque les contenus sont attachés aux outils. Et elle recoupe imparfaitement l'évolution des pratiques, notamment lorsqu'elle mêle communication interpersonnelle et échange sur les contenus. En fait, le problème des contenus, c'est qu'il marche bien justement là, Miège le dit très bien, il marche bien justement lorsque, véritablement, on peut avoir des industries de contenants, de contenu, qui sont relativement autonomes. Et pas de bol, c'est ce qui s'est passé, puisque avec le numérique, de plus en plus, les contenus, et là je reprends ce terme, se sont émancipés, de leur support. Et donc, de fait, c'était assez simple, la question stratégique a été de voir comment les acteurs des réseaux et de la communication réussissaient à mettre la main, entre guillemets, sur les contenus. Sauf que, le problème théorique que pose ce terme, c'est que justement, il déconnecte l'aspect symbolique du produit culturel, qui est effectivement consommé, de tout le système industriel et social de production de la culture dans lequel il s'insère. Et justement, on avait dit, le but de l'économie politique, c'est d'articuler les deux. Or, ce terme-là ne permet pas, il me semble, d'articuler les deux. Cette dénomination rend impossible la considération des réalités symboliques que les contenus recouvrent. Lorsqu'on parle de contenu, en fait, on a déjà accepté le fait qu'ils contiennent à peu près rien d'intéressant pour l'analyse. C'est ça que ça veut dire. Le fait de les appeler contenus, ça montre qu'en fait, on est autour, vous voyez. Mais on ne rentrera jamais dedans. C'est des contenus. Voilà. À la limite, c'est pour les psychologues, vous voyez, ou les artistes, vous voyez. Non, les économistes, c'est plus sérieux. Contenu, voilà. Alors que dans le monde anglo-saxon... Désolé. Et en plus, on a posé une règle tout à fait intéressante, selon laquelle, vous savez, vous avez déjà probablement entendu parler de ça, la question du marketing amont. On a économiquement, on a économiquement montré le découpage de l'essentiel des filières des industries de la culture. Ici, je vous ai mis l'industrie musicale, hein, d'après Curien et Moreau, avec, disons, quatre grandes phases, création, industrialisation, promotion et commercialisation. Et l'économie ayant décrété, entre guillemets, et remarqué que l'essentiel des phases de création était plutôt autonome par rapport au reste de l'industrie, eh bien, ça permettait de couper définitivement l'analyse et de commencer l'analyse à partir d'ici. Puisqu'on a dit que là, c'était autonome, que l'essentiel, disons, des tâches de contrôle arrive plutôt sur les tâches qu'on appelle aval, eh bien, hop, voilà. Voilà une règle qui permet de... Ouf, génial. Du coup, tout ce qui est là, on ne va pas s'y intéresser. On va commencer à partir d'ici. Alors que dans le monde anglo-saxon, c'est pas exactement pareil. Dans le monde anglo-saxon, où une bonne partie des études sur l'industrialisation de la culture dérivent des études littéraires, les chercheurs ont un terme un peu plus générique et en même temps plus spécifique pour décrire les contenus. Il s'agit de la notion de texte. Alors évidemment, il faut bien les comprendre. Les textes ne se limitent pas au seul texte littéraire. Ça recouvre l'ensemble des artefacts qui articulent des symboles à des degrés divers. Ça recouvre à la fois, et je cite Esmond Hall, je ne sais pas si il est mis, mais oui, les films, les séries télévisées, les bandes dessinées, la musique, les jeux vidéo, qui nous fournissent des représentations du monde, et de là servent de reportage. Donc en fait, si vous voulez, il y a une réalité quasi identique entre texte et contenu, sauf que le terme anglo-saxon, lui, qui vient de l'étude des cultures populaires, il intègre cette relation à l'univers symbolique dès l'analyse. Ça ne veut pas dire que les textes, c'est pour autant une notion facile, hein. Bien sûr que non, et y compris dans les études anglo-saxonnes, Esmond Hall le montre à plein d'endroits. Mais disons que, voilà, les textes contribuent à former l'ensemble des systèmes symboliques et imaginaires sur lesquels peuvent se reproposer les constructions sociales. Et lorsqu'on analyse les industries qui produisent des textes, on analyse justement le rapport entre les logiques économiques, on essaie de faire ça, et justement tous ces contenus symboliques. Et ainsi considérés, si vous voulez, du coup, il y a deux problématiques qui traversent les études des textes. Qui étaient les problématiques initiales, hein, que se donnait l'économie politique, mais qu'elle a été contrainte d'oublier, c'est à la fois l'intérêt, disons, la question des intérêts que les textes servent, hein, c'est-à-dire en gros, c'est très très compliqué, hein, c'est voir ce qu'il y aurait de réactionnaire, progressiste, je ne sais pas, militant pour le statu quo ou pas, dans certains contenus plutôt que d'autres, et aussi, la question de ce que la diffusion en masse des productions, rendue aisée par la technique industrielle, mais aussi rendue nécessaire par le besoin de reproduction de capital et donc de ce qui marche, etc., ce que ces logiques donnent de permanence et d'actualité à certains textes plutôt qu'à d'autres. Et ça va être principalement là-dessus qu'on va se concentrer, nous, aujourd'hui. Évidemment, ces problèmes sont très très difficilement appréhendables par les théories des industries culturelles francophones, pour les raisons que je vous ai données. On a du mal, hein. L'économie politique, et puis bon, voilà, c'est disciplinairement ces problématiques, a du mal à appréhender les problématiques qui sont celles que j'ai mises ici. Or, il me semble que les mutations actuelles de la musique, et là je vais me concentrer sur la musique, qui ont vu notamment une poussée des services de conseil musical, de répertoires musicaux, disons des logiques de l'intermédiation en général, eh bien, ne peuvent pas être pris en compte dans l'économie politique par rapport aux orientations qu'ils impulsent en réalité, sur les réalités artistiques des contenus, justement. Et je vais essayer de vous montrer que, eh bien, la logique de l'intermédiation, c'est pas uniquement une logique socio-économique. Elle a partie liée avec la détermination, d'une certaine manière, des contenus culturels, et voire même, des fois, certaines de ces logiques doivent faire avec ce que les contenus eux-mêmes obligent à faire. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Et pour ça, j'aimerais qu'on regarde la musique de pub. Alors, l'intérêt, hein, j'ai choisi ça, bon, déjà parce que j'ai fait ma thèse dessus, et parce que il me semble que, enfin, c'est pas pour rien que j'ai fait ma thèse dessus, c'est que il me semble que l'industrie de la, enfin, disons, la musique de pub permet de voir à l'œuvre de manière très claire certains des rapports entre économie et musique plus que ce qu'on pourrait voir ailleurs. Disons, parce que voilà, en 30 secondes, il faut tout de suite que ça marche, donc ben, voilà, souvent les liens sont un peu plus clairs. Voilà. Mais on pourrait dire la même chose. Au printemps dernier, j'avais parlé des plateformes musicales, et on avait vu là aussi les liens entre la logique de plateforme et la détermination de certains contenus par rapport à d'autres. Alors, que dire de la musique de pub rapidement, hein, au cours des 20 dernières années, elle a connu un engouement assez certain, pour tout un tas de raisons que je vais énumérer, mais pourtant, il y a très peu de recherches spécifiques sur la musique de pub. En français, j'en ai trouvé une. Voilà. Jean-Rémy Julien, 89. Et après, il y a quelques éléments qui viennent, mais qui sont plutôt des travaux, soit de maîtrise, voilà, quelques travaux de doctorat. Et sinon, par contre, alors, dans le monde du marketing, là, il y a un tas d'études, mais qui sont difficilement appréhendables pour nous pour penser, disons, l'industrie de la production musicale publicitaire. En conséquence, les seuls analystes sont les professionnels eux-mêmes. Et du coup, évidemment, ils sont aussi les seuls à pouvoir définir, catégoriser, selon les normes qui sont les leurs et qui les arrangent. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Voilà. Ce que je vous propose, c'est essayer de voir comment ça fonctionne socio-économiquement, la musique de pub. Et ensuite, on va écouter la musique de pub. Et on verra un peu quels peuvent être les liens qu'on peut faire entre les deux. Alors, qu'est-ce que c'est que cet acteur qui produit de la musique de publicité? C'est en fait assez compliqué. On a un mal fou à définir qui c'est, en fait, cet acteur. Parce qu'en fait, c'est plein d'acteurs. Dans un premier temps, si vous voulez, il faut mettre à l'avant tout de suite l'importance des droits d'auteur dans la musique de publicité. Vous le savez, il y a des dispositifs de droits d'auteur pour la musique qui ont été mis en place à partir du milieu du 19e siècle, alors notamment en France, puis aux États-Unis, au Canada aussi. Et aujourd'hui, pour la musique, la question des droits d'auteur, c'est quelque chose de très puissant. L'histoire de la constitution, si vous voulez, du droit d'auteur pour la musique a rendu... l'a rendu le droit d'auteur applicable en rapport avec les lieux de diffusion. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que le législateur, si vous voulez, n'est pas esthéticien. Il n'est pas critique d'art. Donc, vous pouvez avoir des droits d'auteur sur de la musique, pas en fonction de la qualité supposée de ce que vous produisez, mais en fonction des lieux de diffusion. D'abord, les théâtres, hein, puis les cafés-concerts, et puis... la reproduction mécanique, les salles de bal, puis voilà, la diffusion radiophonique, la diffusion télé, etc. Et en fait, vous avez deux éléments importants qui rendent le droit d'auteur stratégique pour la publicité à la télé. C'est qu'il s'applique donc à toute œuvre musicale, toute publicitaire qu'elle puisse être, et il offre une rémunération en fonction des volumes de diffusion. Ce qui, dans un secteur où la diffusion est assuré pour souvent des périodes de 6 mois, 1 an, 2 ans, ce qui est le jackpot. En gros, vous passez une musique sur une pub, vous touchez pendant 6 mois de droit. Alors si c'est en plus une grande chaîne, etc. Et c'est génial. Du coup, si vous voulez, regardez ce que me dit un éditeur que j'interroge, il n'y a pas d'autre support qu'offre ça. C'est quand même particulier dans le business de la musique, un mode de diffusion qui t'assure de toucher 6 mois, 1 an de droit. Alors faut pas se louper. Non. Du coup, on ne s'étonnera pas que plusieurs sociétés indépendantes de conception sonore audiovisuelle aient fleuri dans les années 70 et 80, que ce soit en France d'ailleurs ou outre-Atlantique, pour concurrencer les régies radiophoniques qui produisaient l'essentiel de la musique de publicité. Et en fait, ces boîtes de production de musique de publicité se structurent sur le modèle de l'édition musicale tout court, en fait. Et ils mettent ça bien en avant, hein. C'est-à-dire que pour eux, ils font de la musique d'abord, justement, parce qu'ils ont intérêt à ce qu'on applique, à ce qu'on considère ce qu'ils font comme de la musique, quoi, pour les raisons que je viens de dire. Donc quand vous les interrogez, ils vous disent « Oui, moi je suis avant tout éditeur. Hein, voilà. Je suis un éditeur musical, j'ai des compositeurs, j'essaie de faire passer, de valoriser leurs œuvres. » Donc voilà. Traditionnellement, disons, les producteurs de musique de publicité, c'est ces gens-là, c'est ces boîtes spécialisées. Sauf que... il s'est passé quelque chose dans le tournant des années 2000, c'est que puisque la production musicale publicitaire s'apparente du point de vue des droits à la production musicale tout court, et peut être très lucrative, il y a d'autres acteurs qui se sont dit, bah tiens, nous aussi on est producteurs de musique en fait. Les maisons disques, les éditeurs phonographiques, se sont dit, mais attendez, mais nous aussi on a des catalogues gigantesques. En plus, on vit une crise en ce moment, au tournant des années, au tournant du 21e siècle. Ça nous va si jamais on nous paye des droits pour utiliser nos musiques sur des supports publicitaires. Donc en fait, voilà, des stratégies ont été mises en place allant vers de nouvelles formes de financement de la production musicale via le recentrement sur la gestion des droits et donc le développement de la synchronisation publicitaire, audiovisuelle, etc. Et la synchronisation, c'est une pratique assez lucrative pour les maisons de disques parce que si jamais vous voulez mettre de la musique sur des images publicitaires, musique qui existe déjà, musique de catalogue, les Rolling Stones, voyez, tout le monde. Eh bien, comme ce n'était pas de la musique faite pour la publicité au départ, c'est pas automatique. Il va falloir payer des droits. Il va falloir demander aux ayants droit, disons, ce qu'ils veulent bien. Et ça, c'est un service que facturent les maisons de disques. Tu veux mettre les Rolling Stones ? Je vais leur demander. Prépare du fric, hein, parce que... voilà. Voilà. Et ça, c'est assez lucratif. En plus, il faut payer deux types de droits. Les droits éditeurs et les droits phonographiques. Parce que, bon, mettons, vous voulez utiliser, je sais pas, Summertime, vous voyez, le tube, là, de Georges et Iragar, je crois. Et du Boz et War, je crois. Je sais plus qui. Bon, vous voulez utiliser Summertime. Bon, alors, vous allez devoir payer les droits éditoriaux pour utiliser la partition elle-même. Bah, donc, les sous iront à l'auteur et l'éditeur original. Mais si vous voulez enregistrer, si vous voulez utiliser tel enregistrement d'Ella Fitzgerald 56 ou tel enregistrement de je sais pas qui, bon bah là, vous allez devoir payer un deuxième type de droit pour les gens qui possèdent les droits du master, quoi, les droits de l'enregistrement même. Et comme en général les maisons de disques elles possèdent les deux, puisqu'elles produisent le master et en général elles ont aussi les droits éditoriaux, eh bien c'est tout bénef, quoi. Elles peuvent, disons, c'est un peu des coups de poker. Ils le disent d'ailleurs comme ça, hein. Je sais pas où on en est. C'est de la négociation. Il faut avoir le nez fin, essayer de comprendre quel serait le prix du morceau sans le brader, en sachant quand même que ça peut être intéressant de promouvoir l'artiste, qu'on y a intérêt, ou à l'inverse, le titre c'est un gros gold et on peut peut-être demander beaucoup, surtout si on sait que l'annonceur a plutôt grosse tête, qu'il est prêt à lâcher pas mal. Quelquefois, entendre des coups de poker. Voilà. Ah, ça va coûter tant. T'as pas, ça va coûter moins. Bon, voilà, c'est vraiment c'est de la négociation. Et finalement, ces secteurs de négociation de droits, hein, eh bien, ont été mis à l'avant par les industries du disque au cours des années 2001. Toutes les majors du disque ont ouvert des départements spécialisés de synchronisation publicitaire, ont starisé les responsables de ces départements-là. Ils étaient souvent dans la presse, plus ou moins spécialisés, etc. Les indépendants aussi, hein, alors même s'ils n'ont souvent pas des services... Ils ne peuvent pas avoir un service perso pour eux, mais souvent ils se regroupent par indépendants pour avoir un service qui va gérer le catalogue de plusieurs indépendants. Et alors, ça a juste nécessité une chose, c'est la réorientation des discours. Parce que si jamais tout le monde se met à proposer des licences pour la synchronisation de musique sur des images publicitaires, les fans risquent de ne pas aimer. L'industrie musicale vend ses productions comme de l'art. Et une grande partie de ce qui permet d'expliquer que c'est de l'art, c'est justement de ne pas faire des coups comme ça, super commerciaux, justement en identifiant la publicité plutôt comme un peu l'élément, plutôt le pôle commerce à mort. Donc du coup, c'est bizarre, quoi. Et donc en fait, on voit que dans toutes les années 2000, il y a eu une réorientation des discours par rapport à la publicité, en fait. La publicité, c'est devenu quelque chose de rebelle, un peu. À une époque, si vous voulez, où les radios, et c'est un discours d'ailleurs qu'ils tiennent, à une époque où les radios, justement, sont très concentrées, où les grilles sont très sclérosées, où c'est très très dur de passer en radio quand on est un artiste, eh ben, la publicité, peut-être, ça permet de quand même vivre de ses droits. Et quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour ça, c'est Moby. Parce que Moby, vous le savez peut-être, hein, l'album Play, 100% des 18 titres de l'album Play ont été synchronisés sur des musiques, alors, enfin sur des supports, soit audiovisuels, soit publicitaires, etc. Et Moby lui-même avait un discours là-dessus, quoi. Il expliquait que voilà, personne ne voulait le passer en radio. Du coup, il a trouvé que la publicité ou la diffusion audiovisuelle permettait justement peut-être de diffuser sa musique d'une autre manière. Et donc, évidemment, les maisons de disques se sont engouffrées là-dedans pour montrer, bah, regardez, Moby le fait, c'est un artiste indépendant, etc. Vous voyez, finalement, la publicité, c'est un moyen d'être un peu rebelle, de quand même produire sa musique, mais sans trop faire de concessions aux radios, sans que les radios coupent pour que ça se réduise à 3 minutes et non pas à 5 minutes 20, etc., etc. Donc voilà un peu si vous voulez, pour la première partie de la définition socio-économique de la musique de pub, c'est finalement un ensemble de logiques qui viennent de l'industrie musicale. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez également des stratégies musicales de l'industrie publicitaire. Parce que même si ces déboires ont été moins amplement médiatisés que ceux qui ont touché les industries musicales, l'industrie publicitaire traverse périodiquement des périodes de crise, et notamment en France, mais également à l'étranger. L'industrie publicitaire a traversé une crise au tournant du siècle, avec, alors en France, ce qu'on a appelé la loi Sapin, mais il était déjà là, c'était déjà... Je ne sais pas s'il était ministre des Finances, mais c'était déjà Michel Sapin, qui, en 1993, a proposé une loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. En gros, c'est une loi qui visait assez clairement l'industrie publicitaire et qui obligeait les publicitaires, les agences de pub, à être très clairs sur quelle était la part de ce qu'ils produisaient et quelle était la part de ce qu'ils margeaient. Parce qu'en fait, l'essentiel des industries de la publicité jusqu'à la fin du XXe siècle ont principalement produit de la richesse sur la vente d'espace. C'est-à-dire que voilà, je suis une agence de pub, j'achète des espaces en gros, vous voyez, parce que TF1, alors, je ne sais pas quelles sont les chaînes ici.
TVA.
Bon, TVA a besoin quand même pour survivre de vendre ses espaces publicitaires. Donc si je lui en achète en gros, il va peut-être me faire une ristourne, voire une sacrée ristourne. Mais sauf que moi, quand je vais vendre mes bouts d'espace publicitaire à mes clients, je ne vais pas répercuter la ristourne. Donc l'essentiel de la production de valeur dans l'industrie publicitaire s'est fait là-dessus. Jusqu'à ce que, alors en France c'était la loi Sapin, mais à l'étranger il y a eu d'autres équivalents, jusqu'à ce que on oblige, disons, tous les fournisseurs de services des agences à envoyer sur demande aux annonceurs la facture précise de ce que ça a coûté. Et alors là, les grosses marges, ça a dû se stopper. Et ce qui était amusant, c'est que jusque-là, finalement, le conseil publicitaire lui-même, c'était gratuit, quoi. C'était un truc en plus. On touchait déjà tellement de pognon sur la vente d'espace, le conseil, c'était cadeau, quoi. Et du coup, il a fallu, se réorienter sur ce conseil. En fait, il y a eu plusieurs stratégies pour essayer de sortir de cette crise. Alors ça, c'est très très drôle. Il y a eu une tentative d'instauration de droits d'auteur sur la publicité, pardon, j'ai fait une erreur. Tentative avortée. C'est-à-dire, en gros, puisque si TVA passe des spots publicitaires que j'ai créés, après tout, on peut me verser des droits. C'est un truc un peu bizarre. Évidemment, ça n'a pas marché pour plein de raisons. Un, parce que les annonceurs n'étaient pas du tout d'accord. Deux, parce que les supports n'étaient pas tout à fait d'accord. Mais surtout, parce qu'aller faire du jour au lendemain un système de répartition des droits sur la publicité comme ça, from scratch, disons, quand on sait que pour la musique, par exemple, ça a mis des décennies à se mettre en place, bon, c'était pas si simple. Deuxième stratégie, intégration des agences de production. Ça, c'est une stratégie assez fréquente dans les industries culturelles, c'est-à-dire, on a intégré à l'industrie publicitaire les productions musicales dont j'ai parlé, certaines productions musicales dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qui permettait quand même de récupérer les droits d'auteur sur la musique qu'on utilisait dans la publicité. Mais surtout, la stratégie principale, ça a été une spécialisation du conseil, et notamment en direction de la musique. Et donc, il y a eu tout un tas de boîtes de sound design qui ont fleuri à la fin des années 90, qui mettaient en avant, leurs compétences de niche ultra spécialisées. Design sonore, tu viens me voir. En gros, le principe est simple, j'en ai rencontré plein. Vous êtes tel annonceur, vous avez besoin d'une musique, attendez, je vais faire des études, je fais machin, hop, avec des PowerPoint et machin, un truc très feng shui, des graphiques, machin. Et bien vous, il vous faut, c'est 200 000 euros. Voilà à peu près le principe, je suis désolé, je caricature un peu. Mais voilà. Et alors, petit à petit, éventuellement, ces agences se sont tournées vers la production, mais c'était pas l'essentiel, quoi. Ils touchaient, eux, ce qui les intéressait, c'était de vendre du conseil très cher. Et éventuellement, s'ils produisaient, pourquoi pas, ils pouvaient toucher des droits après, mais disons que l'essentiel pour eux était de vendre du conseil. En gros, du coup, si je veux résumer ce que je viens de dire, la production musicale pour la publicité, c'est un acteur assez hétérogène, quoi. Vous avez à la fois des acteurs issus de l'industrie musicale, dont j'ai parlé au tout début, qui sont les acteurs, les éditeurs spécialisés en production de musique de pub, puis les acteurs publicitaires indépendants qui se sont spécialisés sur le design sonore, ceux dont je viens de parler, puis les acteurs qui sont issus de l'intégration à l'industrie publicitaire de la production musicale, dont j'ai parlé juste avant, et évidemment les acteurs issus de l'industrie musicale, les grandes maisons de disques et les indépendants. Du coup, vous avez à la fois, si vous voulez, des gens qui viennent de la production musicale ou de l'industrie publicitaire. Et donc chacun va être plutôt enclin à mettre en avant une logique venant plutôt de l'industrie culturelle, hein, la logique éditoriale, la recherche de droits, ou plutôt une logique venant de l'industrie publicitaire, la vente de conseils. Et en réalité, les particularités du point de vue économique sont tout à fait évidentes. Les bénéfices viennent soit des retombées en droits d'auteur, à la diffusion, quoi, soit des droits de licence, parce que les droits de licence, c'est en plus des droits à la diffusion. Vous voyez, quand vous avez réussi à vendre pour que votre annonceur passe les Rolling Stones sur sa pub, il n'empêche que lorsque ça passe, à chaque fois que ça passe à la télé, on gagne en plus des droits à la diffusion. Voilà, donc il y a ces deux types d'éléments-là. Et également du conseil. Hein, le conseil dont je viens de parler, c'est-à-dire, bah, il faudrait telle musique. Ou alors, il faudrait quelque chose qui ressemble à ceci, telle ambiance, tel truc. Ah, je pense à voilà, tel truc qui est produit par machin. Voilà. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ou à ce que moi je croyais, c'est plutôt cette logique du conseil qui tend à prendre le dessus. Finalement, certains acteurs attachent davantage d'importance à la recherche de la bonne musique qu'au fait de la produire. Pour tout un tas de raisons. Mais la principale étant que le droit d'auteur, c'est pas reconnu partout. Alors que le conseil, ben voilà, et puis on ne sait pas, voilà, si ça ne marche pas, ben ça rapportera moins. Alors que le conseil, voilà, a priori, on a vendu. Quoi. Voilà. Du coup, d'une certaine manière, si vous voulez, de plus en plus, au cours des années 2000, dans l'industrie, enfin dans la musique de pub, la production de valeur s'indexe sur le conseil. C'est-à-dire que le conseil sert en gros de gatekeeping pour ensuite pouvoir produire de la valeur au moyen des droits d'auteur, au moyen des licences. Mais disons qu'il faut d'abord un bon conseil, et ensuite les gens vont acheter telle musique ou vont utiliser telle musique. Voilà. Et typiquement ça, eh bien, c'est la logique du courtage, en fait, et de l'intermédiation, centrée autour de la figure du courtier qui, selon Meuglin, vous le savez, ne produit rien. Il recherche des informations ad hoc et il les fournit à la demande et sur mesure, le fil se produisant lorsque les informations fournies sont jugées pertinentes et utilisées par celui à qui elles ont été adressées. En général, on oublie que cette logique, eh bien, est toujours tournée autour d'une forme ou d'une autre de conseil, en fait. Et ce que je voudrais voir avec vous, c'est essayer de montrer que cette logique, elle a un rapport tout à fait spécifique à la production de contenu, et notamment à la production de contenu musical. Du coup, je vous invite à regarder ensemble comment travaillent les conseillers en communication sonore. C'est assez rigolo, d'ailleurs. En gros, le conseil publicitaire fonctionne d'une manière tout à fait particulière, qui est assez éloignée des modèles de création musicale habituels, et de la création culturelle habituelle, en fait. C'est une sorte de conception musicale qu'on pourrait dire sous influence. D'ailleurs, c'est le titre d'un ouvrage sur les compositeurs pour la musique de publicité, Music on Demand, musique à la demande, musique sous contrainte. En fait, l'idée, c'est de spécialiser la recherche d'ambiance musicale pour la création d'univers musicaux qui seraient en accord avec les valeurs que cherche à faire passer tel ou tel annonceur, quoi. Et donc, du coup, vous avez un mode de fonctionnement en deux temps. D'abord, il faut définir les valeurs que certaines œuvres ou fragments musicaux contiennent en propre. Ça, bah, ça va sonner, ça va sonner classe, ça va sonner, on va y revenir dans un instant. Et ensuite, produire des documents de travail très précis, qui souvent doivent s'appuyer sur de la recherche. Souvent, on explique qu'on a de la recherche. D'ailleurs, quand je faisais ma thèse, on voulait m'embaucher à chaque fois que je faisais un entretien. Pas tellement parce que ça intéressait, mais pour pouvoir dire j'ai quelqu'un qui produit. Et voilà, produire des documents de travail précis, passant d'un acteur à l'autre, et susceptible de rendre compte des choix musicaux opérés. Et en fait, cet objet, c'est le brief, hein, vous connaissez peut-être, hein, dans l'industrie publicitaire. Objet intermédiaire, hein, selon Jantet, qui traduit le passage de l'état de besoin exprimé par un client à celui de solution proposée par une agence définie en termes fonctionnels. En gros, c'est un cahier des charges, plus ou moins précis. Et en fait, dans le brief musical, on donne toujours des informations factuelles et fonctionnelles. Je vous en ai mis un exemple. Attendez, donc là je parle à quelqu'un qui vient de recevoir un brief, il me le lit. Je vais vous lire le brief qu'on a reçu ce matin pour le produit mix de l'annonceur Y. Voilà, le début c'est comme ça, alors ça arrive de temps en temps, une petite description de la campagne. Donc ici, le produit est destiné aux jeunes, blabla, 4e campagne TV en France, je passe, mais donc en gros il m'explique le concept du film. On en vient à la musique, il cite, frais, punchy, vivant, très rythmé, voir la séquence image avec un gimmick mémorisable, cible 10-20 ans. En général, il est question d'une cible. Les adjectifs employés donnent des instructions sur le contenu émotionnel de la musique, mais quelquefois de manière assez vague, très précise. J'en ai plein d'autres. Actuel, frais, pas trop connu, plutôt girly. Dynamique, simple, très pop, avec un gimmick et des la-la-la chantés en anglais. Contrainte, voix off et sound design important. Pas trop connu, serein, léger, instrumental, avec des nappes de synthétiseur découvertes. Prévoir un gimmick mémorisable pour la signature, cible trentenaire un peu bobo. Heureusement qu'ils font des études hein, sur la finance. Léger, plutôt tranquille, bonne humeur pour quinca. Événementiel, engaging, à la viva la vida de Coldplay. Alors là, il m'explique. Donc, engaging, ça veut dire impliquant, côté événementiel. Voilà. En gros, ce brief, il doit être produit par les spécialistes du conseil publicitaire, interprété, réinterprété par les acteurs qui suivent sur la chaîne de création de conseil. Et le but, ça va être de faire correspondre, si vous voulez, ces contraintes à des titres musicaux déjà existants. Et alors, pour ça, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils rationalisent la musique. Et alors, vous allez voir, ça, c'est méga drôle. Certains travailleurs employés dans les activités de conseil passent l'essentiel de leur temps de travail à écouter de la musique, répertorier les nouveautés musicales, réfléchir les types de matériaux les plus à même de véhiculer certaines idées en créant des mots-clés. Ils mettent en place des principes de rationalisation pour préparer les associations entre situation publicitaire et musique. Regardez, ça, je cite encore, c'est l'iTunes, il est là. Moi, je passe beaucoup de temps à référencer avec des mots. Je pense qu'aujourd'hui, la clé du succès, c'est d'avoir des bons titres bien commentés, annotés avec les mots-clés et les trucs. Donc là, par exemple, donc, d'après le brief qu'il vient de me montrer ici, là, avec girly, la la la, machin, hein, eh bien voilà, il va dans son iTunes voir les titres qu'il a déjà référencés. Et alors, il tape girly. Ah bon, bah girly. Ah, j'en ai 109 qui sortent, donc ça va pas trop. Bon, alors attendez, je vais faire girly, gimmick. Ah là, j'en ai deux. Alors maintenant, je retire gimmick, je fais la la la, etc., etc. Et je lui demande si c'est lui qui a fait ce référencement. Bah oui, voilà. C'est le fruit de ma subjectivité. On va voir que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que je numérise des albums en permanence. Voilà. Donc en permanence, il faut faire ça. Écouter de la musique et trouver des mots-clés. Alors, qui sont des mots-clés qu'on trouve souvent dans les briefs. Vous voyez, au fur et à mesure, ça change selon les moments. Voilà, alors, girly, il y a eu toute une période où il n'y avait que du girly. Alors les gens mettaient du girly partout. Puis après, il y a eu d'autres mots-clés. Bon, voilà. Mais en réalité, c'est pas si personnel que ça. C'est pas si personnel que ça. En fait, quand on étudie comment ils rationalisent, on peut voir que, en fait, les systèmes de rationalisation qu'ils utilisent sont assez standardisés. Ils s'articulent sur trois grandes catégories: les matériaux, les genres, les stars. Les matériaux. Alors, je suis désolé pour ceux qui sont à Laval. Normalement, j'ai un clavier quand je fais des trucs comme ça, mais là, j'en ai un sur l'ordinateur. On va voir si ça marche. Si vous m'entendez pas, c'est pas très grave. Pas très fort. Enfin, on fait avec ce qu'on peut. Les matériaux, si vous voulez, c'est le niveau. C'est les éléments musicaux, le premier niveau de la matérialité sonore, si vous voulez. Certaines cadences, certains mouvements harmoniques, certaines matérialités musicales, qui sont quand même déjà. Qui ont déjà été associées au cours de l'histoire de la musique avec des situations. Par exemple, un rythme de marche, vous voyez. Pa 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 pa. Bon. Ben là, quand vous entendez ça, voilà, ça a un effet martial, etc. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire de la musique, eh bien, parce qu'il y a une carte au début, et donc cet intervalle est un intervalle facile à faire au clairon, qui est un instrument qui fait que des harmoniques, etc. Donc on l'a beaucoup utilisé pour la chasse, pour la guerre, etc. Le rythme, pareil, etc. Et donc, eh ben, voilà, les matériaux ont été, par l'histoire, si vous voulez, de la rationalisation du matériel musical, associés à des situations. Et donc, ben voilà, premier élément, hein, ils les utilisent. Notamment, il m'explique comment il a utilisé une cadence majeure pour le 118-712. Si vous êtes français, ça, vous connaissez. Hein. Voilà, 118-712, sol, fa, ré, sol, fa, ré. Et alors, il m'explique. Hein, il me dit, bah, vous voyez, 118-712, c'était compliqué. Ils n'avaient pas choisi celui-là. Voilà, 118-712, comment on va faire? Eh bien, on va mettre la rime dans la musique. Hein. Et donc, 118-712, voilà. On s'en est sorti en disant la rime, on va la mettre dans la musique. Donc c'est deux fois trois notes sur une résolution basique, sol, fa, ré, fa dièse, hein, bien sûr. On a cette répétition dans la musique, mais elle ne se perçoit pas, c'est la magie de la musique. Et il a fait un bouclet comme ça, il l'a vendu. Donc, les matériaux. En fait.
118-712, c'est quoi ça?
C'est le numéro des renseignements téléphoniques qui a été. En fait, En France, le numéro des renseignements téléphoniques a été sous monopole pendant un long moment. Et au début des années 2000, il a été ouvert à la concurrence. Et donc, en fait, l'opérateur original, qui était Orange, avait le 118-712. Qui était pas très connu, alors qu'il y a eu des grandes campagnes sur 118-218, 118-000, etc., qui faisaient que cela était très connu. Et donc voilà, le 118-712, ils sont allés faire du design sonore pour essayer de le rendre plus connu. Mais donc, en fait, si vous voulez, cette rationalisation au niveau des matériaux, dans le conseil musical, c'est ni plus ni moins qu'une application de petits conseils musiciens. Si vous êtes musicien, vous n'avez pas besoin de faire 10 ans de musicologie pour savoir ça. D'ailleurs, il me le dit, vous savez, le conseil, c'est montrer et essayer de faire comprendre ce qui va passer à coup sûr avec la musique. Quelquefois, je leur montre juste l'image avec le son et ils comprennent tout seuls que ça marche. Nous, les musiciens, les compositeurs, les producteurs, ceux qui connaissent, vous, moi, qui avons cette sensibilité, on sait très bien que ça va marcher. On sait très bien qu'en jouant un truc majeur avec do, fa, sol, les gens se sentiront pas trop agressés. Pardon, je suis désolé, c'est un peu... Je fais avec les moyens du bord. Mais que si on prépare un arrangement en arpège qui joue en boucle la même suite de notes tempo régulier médium sur les notes aiguës du piano, ça va être plutôt léger, et qu'à l'inverse, si on joue les accords en serré en cluster qu'on laisse bien résonner tempo lent sur les notes les plus graves, ça va être plus oppressant. En fait, si vous voulez, c'est des petits trucs assez basiques de la musique, mais finalement on utilise ces matériaux comme des éléments signifiants, en fait, sur le modèle du langage, quoi. Voilà premier niveau de rationalisation, donc les matériaux. Mais il y en a un deuxième, c'est les genres. Alors les genres, c'est un cran au-dessus. On a quitté la matérialité musicale, on est davantage dans le discours. En fait, les genres, c'est quoi? C'est que dans la production industrielle de biens culturels, que vous connaissez bien, en fait, les genres se fixent à la fois sur des caractéristiques esthético-musicales et sur des types de discours. Par exemple, le genre jazz, c'est utiliser un certain nombre de matériaux, que ce soit des timbres, que ce soit des rythmiques, que ce soit, etc., des harmonies, et l'associer à des discours promotionnels pour les vendre. Le rock, pareil, etc., etc. Et donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent, lorsqu'on utilise la musique en publicité, en fait, l'utilisation de la musique par la publicité permet, lorsqu'elle réfléchit par genre, d'attribuer soit à des images, soit à un produit, une partie de ses valeurs par l'appel de quelques caractéristiques musicales typiques. Exemple, regardez ce qu'il me dit. Il y a quand même des trucs bien connus qui tombent assez sous le sens. Par exemple, si on a besoin de faire quelque chose de très classe, une teinte assez haut de gamme, on peut créer une ambiance noir et blanc avec du jazz. C'est quand même plus aristo qu'un truc folk, me dit-il. Si vous connaissez le jazz, pardon d'avance. Quand on sait ce que c'est que l'histoire du jazz, l'associer à de l'aristo, c'est un truc absolument délirant. Mais bon, voilà. D'ailleurs, lorsque les agences envoient des images avec une teinte noire et blanc pour des parfums ou des produits de luxe, on sait qu'ils vont plutôt demander du jazz. Ou un autre truc, voilà, c'est pas pareil si on met du hard rock ou du punk ou du métal, on dit pas les mêmes choses, pas exactement. Mais là, c'est pareil. Le genre rock, mettons, c'est un ensemble de sonorités qui, dans l'industrie musicale, ont été associés à des discours sur l'image du jeune en colère, machin, à tel point que, ça évoque, lorsqu'on utilise ces matériaux-là, ça appelle ces discours promotionnels qui ont été associés à ces genres-là. Donc voilà, deuxième niveau de rationalisation, c'est donc ces genres qui sont des ensembles cohérents de matériaux auxquels ont été attribués des discours par l'histoire de la musique. Et le niveau au-dessus, c'est les stars. Alors les stars, on est encore un cran au-dessus, éloigné de la matérialité et plus proche, plus dans l'abstraction, si vous voulez. C'est-à-dire que là, par exemple, je viens de recevoir un brief, il faut répondre pour 17h, c'est celui de tout à l'heure. Actuel, frais, pas trop connu. Et en fait, il se trouve qu'il y avait déjà une sorte de storyboard animé et musicalisé qui était livré avec ce brief, et alors on le regarde ensemble. Alors il m'explique, c'est un animatique, beaucoup de voix off. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Alors, pour Girly Gimmicky Catchy, au départ, ils avaient mis Lily Allen. Ah oui, Lily Allen, c'est trop bien, c'est le prototype de la girly. Donc, Lily Allen, girly, vous voyez, il y a un lien. Mais là encore, qu'est-ce qu'il fait quand il dit ça? Il m'en a donné d'autres. Par exemple, à un moment, il m'a expliqué que s'il voulait du rebelle, il pouvait prendre Pink. Vous voyez, Pink, qui est une artiste pop-rock, etc. Parce qu'il dit, c'est le stéréotype de la rebelle. Mais en fait, quand il me dit ça, il y a quoi de rebelle dans la musique de Pink? Rien du tout. Ce qui est rebelle, c'est quoi? En fait, le rebelle, c'est le discours qu'on a créé autour de la musique pour la vendre. Et qui fait que ce discours-là est associé par l'industrie musicale à, justement, ces matériaux-là. Voilà. En fait, l'acteur attribue au choix de musique présélectionnée sur des images, les caractères réclamés par le brief, en indiquant que l'interprète serait là le symbole même de certains d'entre eux qui transparaîtraient dans la musique. Mais en fait, c'est par ces valeurs définies comme concept, une fois déterminé leur appel, que eh bien, en fait, les conseillers vont devoir trouver finalement quel sera le meilleur appel. En fait, si vous voulez, ça doit être des pros de l'industrie musicale, en réalité. Ils doivent absolument être pénétrés de tous les discours promotionnels de l'industrie musicale pour pouvoir les ressortir le plus précisément possible. Donc en gros, pour finir là-dessus, les acteurs du conseil en communication sonore se reposent pour leur rationalisation en très grande partie sur en fait l'histoire progressive de la rationalisation de la musique, que ce soit par l'industrie ou que ce soit par l'histoire de la rationalisation de la musique. Et à partir de leurs travaux, les conseils peuvent déboucher soit sur de la synchronisation, c'est-à-dire on va aller chercher une musique qui existe déjà parce qu'on veut telle ou telle valeur, on va aller voir telle musique qui existe déjà et qui les contiendrait, ou alors proposer une création originale qui contiendrait ces valeurs-là, puisqu'on estime que peut-être il n'y en a pas de la musique existante qui les contiendrait déjà. Et donc ça fait que dans la logique du conseil, si vous voulez, chaque titre musical peut être schématisé au moyen d'un certain nombre de paramètres qui devraient contenir. Un ensemble de caractères et de valeurs spécifiques que la musique devrait contenir, mis ensemble sur des matériaux, des genres ou des discours produits sur les stars qui les interprètent. Ben, ça donne quoi comme musique tout ça, en réalité? Je regarde un peu l'heure. J'ai quoi? J'ai un quart d'heure, comme ça, moins un quart, je crois.
Oui. Attends, on passe à
peu près. Tant mieux, parce que j'ai des... c'est vraiment là que ça devient intéressant. En fait, la musique de publicité... La musique de publicité, c'est quoi pour vous? Vous qui êtes là, à Laval, on ne vous entend pas, mais je vois que vous suivez avec attention ce qui me ravit. Mais c'est quoi la musique de publicité? Quels sont les formats de musique de publicité? En général, lorsqu'on demande un peu le sens commun qu'on a par rapport à ça, c'est en gros, il y aurait deux types de formats, c'est-à-dire soit de la musique de catalogue préexistante, disons, qu'on est allé chercher, justement, les Rolling Stones, machin, qu'on a collé sur des images, soit de la musique de création. Oui. Sauf qu'en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on a l'impression, c'est ce que les industriels de la musique de publicité aimeraient qu'on croit. Mais en réalité... quand on regarde des spots, et alors, croyez-moi, j'en ai regardé un paquet pour la thèse qui a présidé au livre dont je parle ici. En fait, quand on regarde des spots, on s'aperçoit que c'est souvent ni l'un ni l'autre. Parce que la musique synchronisée, la synchronisation de musique existante, ça coûte encore vachement cher. Et donc, il n'y a que de très très gros annonceurs qui peuvent se permettre de faire ça. Apple, vous voyez, alors évidemment, sauf que dès qu'Apple l'utilise, on en parle partout, machin. Mais voilà, Apple, des gros annonceurs automobiles, etc. Mais l'essentiel de la publicité qu'on regarde, c'est pas ça, hein, c'est Spontex, c'est je sais pas quoi, des trucs de canard WC pour les toilettes, voilà, c'est ça, l'essentiel de la pub, c'est pas Apple tout le temps. Donc voilà, donc en fait il y a assez peu de synchronisation. Je parle en France, j'ai pas vraiment regardé ici, mais je crois qu'on peut trouver des éléments comparables. Et en réalité, la création, c'est jamais de la création vraiment originale. En fait, l'essentiel des formats de la publicité sont toujours un peu entre les deux. Et notamment, on a ce qu'on appelle des covers. Alors les covers, ça c'est quelque chose qui est le format, l'un des formats canoniques, si vous voulez, de la musique de pub. C'est-à-dire qu'en fait, on a utilisé de la musique, mais on a changé les paroles, on a changé un peu certains éléments de musique. J'en ai un exemple, évidemment. L'exemple, si vous êtes français, je suis désolé pour mon franco-centrisme aujourd'hui, mais si vous êtes français, ça va tout de suite vous toucher.
Je l'aurai. Et c'est pas cher. C'est la masque.
Bon, là, vous avez tous reconnu, j'imagine, ce tube des années 80 qui était Céloise. Alors, je vous passe. Je vous amène au refus. Ça arrive. Et là, donc voilà.
En gros, qu'est-ce qu'on a fait? On a repris cette mélodie archi connue, hein, qui a déjà connu plein de parodies d'ailleurs. Et disons, on a adapté un message publicitaire dessus. Sauf que, en réalité, si vous voulez, là on peut analyser un peu précisément celui-là. En réalité, c'est pas anodin le fait d'avoir fait ça. Parce que. Comme ça que ça. Ah zut. Désolé, je découvre cette machine. Si ça fait ça avec chaque fois, ça va être énervant. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah regardez. Hein. En fait, il y a eu une rationalisation beaucoup plus loin que ce qu'on croit dans le texte. Alors, évidemment, de toutes les matières, c'est la voix qu'elle préfère. La cive, elle est pensive en négligé de soi. On a gardé que de toutes les matières, c'est la voix qu'elle préfère. Pour que ça devienne efficace et pas cher, c'est la maf que je préfère. Très bien. Sauf qu'il n'y a pas que ça. Pour dire efficace et pas cher, il a fallu rajouter une syllabe là. Ça commençait sur le temps, de toutes les matières. Parce que 5 syllabes, de toutes les matières. Alors que efficace et pas cher, il y en a 6. Donc du coup, il faut que ça commence avant, en anacrouse pour les musiciens. Efficace et pas cher. Ça a l'air de rien. Mais en fait, ça fait que cette première partie est strictement équivalente à la deuxième. C'était justement le seul intérêt, enfin l'un des rares intérêts de la musique au départ, c'était qu'elle commençait sur le temps et la deuxième fois c'était en anacrouse. Là, c'est devenu strictement deux fois la même chose, ce qui le rend plus facilement mémorisable. Si vous voulez. Par ailleurs, deuxième élément, le trajet harmonique. Le trajet harmonique était un peu plus intéressant que ça au début, hein, pour ceux qui l'entendront. En gros, vous aviez de toutes les matières. Bonjour, désolé, c'est pas facile. Hein. Ah, ça veut pas. En gros. C'est-à-dire qu'en fait, on avait tout un trajet, si vous êtes musicien, vous l'avez vu, hein, qui tonalement est assez étrange, vous voyez. C'est-à-dire que vous avez la dominante mineure ici, puis on reste en mineur pour avoir les fondamentales en majeur, alors que là, on est resté sur une cadence tout à fait simple. On a réduit, si vous voulez, cet élément-là à la simple note si bémol ici, qu'on martèle. Écoutez plutôt, hein, c'est beaucoup plus simple quand on écoute. Si vous écoutez, on n'entend que, on entend plus que le si bémol. Bref, hein, on a réduit finalement le peu d'intérêt que pouvait avoir le morceau original à juste la note fondamentale qui lui tient. Alors, je ne vais pas en parler trop, parce que le format le plus intéressant, c'est le deuxième. Mais en gros, vous avez une sur-rationalisation de certains matériaux pour renforcer leur qualité, justement, de ce qu'on appelle le verre d'oreille. Vous voyez, c'est une petite ritournelle qui trotte dans la tête, hein, leur qualité de jingle, si je puis dire. Et sinon, eh bien, vous avez une rationalisation selon les différents niveaux que je vous ai expliqués juste avant. C'est-à-dire on peut soit changer les matériaux, soit changer les genres, soit changer les stars. Exemple rapide, hein, je ne vous ferai pas toujours écouter l'original, mais ici, carte noire. En gros, je ne sais pas si vous connaissez l'original, hein, qui était une chanson Tin Pan Alley, vous voyez, des comédies musicales de Broadway, vous savez, le Fantastics, là. Déjà, on est sur une valse, etc. Eh bien, dans la publicité, on a trouvé les matériaux qui font penser davantage au rock, hein, plutôt que à ce style Tin Pan Alley, Broadway, etc. Donc, on peut changer les genres. Là, j'étais. On peut changer les matériaux. Excusez-moi, j'aurais dû commencer par celui-là. Ici, par exemple. Hein. Donc là, évidemment, vous savez, Just Can't Get Enough des Depeche Mode, c'est très marqué années 80, quoi. Les sons, etc. Donc, pour l'utiliser, je sais plus quand, en 2006, je crois, ou 2005, eh bien, on a remis les matériaux au bout du jour, d'une certaine manière. On peut faire ça avec les stars aussi, hein. Écoutez plutôt. Là, pareil,
en utilisant Ray Charles plutôt que John Lennon, eh bien, Ray Charles, qui est connu pour s'être illustré plutôt dans le genre soul, etc., arrive, si vous voulez, avec tous les matériaux qu'on associe habituellement à la soul, et donc toutes les valeurs qu'on associe également à ça, plutôt que John Lennon, qui, comme vous le savez, était plutôt est connu pour avoir été le leader d'un groupe très pop, etc., etc. Oui, pardon. Je t'en prie.
Quelle est parce que la frontière elle est quand même pas très étanche entre plagiat, sampling, cover. Est-ce que tu vois?
J'y viens.
Ah oui, pardon.
J'y viens. Mais oui, bien sûr. Alors justement, pourquoi faire des covers? En fait, les covers, ça a un intérêt tout à fait particulier, en effet. C'est que certes, ça permet de remettre au goût du jour, certes, ça permet de changer un peu l'atmosphère, mais surtout, en effet, ça permet de ne payer qu'une seule partie des droits. Parce que vous payez les droits éditoriaux, dont j'ai parlé, vous êtes obligé de réutiliser la partition, donc vous payez ces droits-là. Mais par contre, l'enregistrement, c'est vous qui le faites. Donc vous n'avez pas à payer cette deuxième partie des droits. Attendez, je regarde, est-ce que ça a marché? Est-ce que tu peux me le remettre? Ouais. L'intérêt de reprendre un titre, me dit un acteur, hein, et d'en refaire une version, c'est qu'on ne s'acquitte que des droits éditoriaux, et pas des droits du master. Maintenant, c'est hyper contrôlé, mais il y a une époque, on disait, ok, on rachète que les droits éditoriaux pour des raisons économiques, on rachetait que les droits éditoriaux et on réenregistrait le titre. Et on ne payait pas les droits master, et le fait de repartir en enregistrement, quand même, ça coûte moins cher que de s'acquitter des droits du master. Donc en fait, si tu veux, c'est pas un plagiat. Au contraire, puisqu'on a payé les droits éditoriaux, donc on n'a pas plagié, tu vois. Et on a réenregistré d'une manière assez différente de l'original, ce qui fait qu'on ne plagie pas l'enregistrement. Mais des fois, et vous avez des musiques de pub qui, elles, cherchent au contraire à réenregistrer quelque chose du plus proche possible de l'original. Regarde plutôt, hein, je ne sais pas où c'est, mais elle doit être quelque part, voilà. Etc. Là, c'est très très proche du Cosby original, quoi, ou de tous ces crooners là, toute cette tradition des crooners. Genre, on a essayé d'imiter ce type de voix très crooner, etc. Donc, en effet, certains finalement, si eux, les covers, c'est une sorte d'entre-deux, un format hybride entre création et synchronisation qui permet de panacher les qualités et les défauts. Et le truc, c'est que c'est permis par la place de l'arrangement dans l'industrie musicale. C'est que les droits d'auteur ne comprennent pas la question des arrangements. C'est-à-dire qu'on a tout à fait le droit de considérer qu'un nouvel enregistrement d'une musique qui existe produit un autre morceau, alors même qu'on utilise la partition originale. Et du coup, et c'est là que j'y viens, en fait, l'essentiel de ce qu'on a en musique de publicité, c'est pas des covers, mais c'est des choses qui sont le plus près possible de l'original sans l'être. Exemple plus tôt. Est-ce que vous connaissez ça? C'est quoi la musique qu'il y a derrière?
La musique de Stella. Ouais, c'est ça. Il a annulé son concert, il devait venir samedi.
Voilà. On pense à Wax Taylor, Que Sera. Mais sauf qu'écoutez bien le Que Sera. Déjà, harmoniquement, c'est pas les mêmes accords. C'est même pas le même mouvement. Dans un cas, on a une cadence parfaite, dans l'autre cas, on a une cadence plagiale. Ensuite, écoutez le titre, écoutez le texte. Pardon. Donc là, on a bien Que Sera. Dans la musique de la pub, c'est plutôt un Hey Bright Eyes, vous voyez, un truc un peu comme ça, une sorte de yaourt. Écoutez bien. Quand ça donne. On n'a pas le Que Sera, on n'a pas le même texte, on n'a pas la même musique, c'est les mêmes instruments, mais on a le droit d'utiliser ces instruments-là, mais harmoniquement, ça n'a rien à voir. J'ai fait les repiquer des parts. Ça veut dire qu'en fait, on a créé deux enregistrements qui, légalement, ont le droit de coexister, qui sont deux enregistrements différents. Et ça, la publicité, c'est l'essentiel de ce qu'elle fait. C'est-à-dire, on voulait mettre les Rolling Stones, on n'avait pas les 3 millions qu'ils demandaient. Et ben, on est allé voir un compositeur un peu spécialisé en lui disant, tu connais les Rolling Stones? Bon, tu connais tel album, telle chanson? Ils nous font pareil, mais pas pareil, mais un peu pareil comme moi. Et regardez, évidemment c'est une pratique un peu honteuse. Les acteurs ne l'évoquent pas au premier abord, évidemment. Mais c'est un format très présent. En général, tous les acteurs les disqualifient en disant qu'un bon conseil permettrait d'éviter ces démarques. Mais moi, ce que je défends,
c'est plutôt que c'est bien justement le principe du conseil qui crée ces démarches. Pourquoi ? Parce qu'on a vu tout à l'heure que le but, c'est quoi ? C'est de réduire les titres à leurs éléments signifiants. Donc, si vous voulez, une démarque qui posséderait les qualités qu'on a énumérées ou l'original sont tout à fait équivalents. Alors que, évidemment, du point de vue des droits, c'est très différent. Et inutile de dire que les directeurs de synchronisation, les maisons de disques, courent après ça. Mais évidemment, c'est très problématique pour eux parce que eh bien, les gens qui font ça savent qu'ils sont... voilà, y a rien de critiquable. Hein. Quand on regarde les partitions, ça n'est pas du tout les mêmes morceaux. C'est pas les mêmes harmonies, c'est pas les mêmes textes. Voilà, on a le droit de réutiliser quand même les mêmes instruments, quoi, ou des feelings, etc. Et écoutez, on peut évidemment utiliser des démarques, soit, là encore, en réduisant des titres à leurs matériaux spécifiques, à leur genre ou à leur star. Et je vais vous montrer ça à nouveau. Écoutez ceci. Etc. Ça vous a peut-être dit quelque chose ? Il y a une autre chanson des Depeche Mode. Hein. Alors, sauf que là vous me direz, bah oui, ça ressemble. Mais on a juste repris ce matériau. Mais on a le droit de faire ce matériau-là. Là, de... Tu veux bien t'allumer, toi ? Pardon. On a évidemment le droit. Ah, oh, putain. On a évidemment, je sais plus, cette tierce-là, on a le droit de l'utiliser, quoi. Et si on écoute tout, harmoniquement, c'est pas du tout le même trajet harmonique, la voix part pas, ben, voilà, c'est une autre chanson. Mais sauf que on s'est débrouillé pour utiliser ce matériau-là en utilisant les instruments qui soient les plus proches possibles, de manière à ce qu'on puisse, en entendant ce matériau-là, penser assez clairement à ce titre, alors que ça ne l'est pas. Autre exemple. Celui-là, il est excellent. Écoutez ça. Raté, c'était pas le bon, excusez-moi. Du coup, là, pareil, qu'est-ce qu'on a fait ? Et en plus, je voulais dire, en fait, au départ, on voulait mettre le morceau original. Donc, on avait synchronisé les deux. On n'a pas eu les droits. Donc, on a fait cette espèce de démarque, hein, c'est le nom. Et regardez, je vous les ai repiqués. Je vous ai repiqué à Ifilu aussi, mais... Je vous ai repiqué. En fait, l'original, si vous voulez, reste vraiment sur ce matériau-là. Pam, 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 padavada, pam, pam, etc. Et il le développe tout le long, jusqu'à un break. Et ça ne fonctionne que là-dessus. Alors que la démarque, en fait, si vous voulez, d'une certaine manière, elle a fait de ces deux éléments qui sont le riff comme ça, avec trois notes sur le temps et trois notes enlevées, et cette petite coda, elle les a mis ensemble, d'une certaine manière. Si vous voulez, elle a fait un autre petit riff. La, la, sol, mi, ré, do, ré, la, do, la, sol, mi, ré, do, ré, do, la, do, la, do, ré, la, voilà. Et en même temps, elle l'a mis sur ce riff. Pam, 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 etc. Et du coup, ça a fait qu'on a fait tout ce qui composait les deux matériaux essentiels de la chanson originale, on les a mis ensemble, et on a gardé aussi des éléments typiques du genre, à savoir le chant en question-réponse, hein, c'est-à-dire vous avez d'un côté l'orchestre qui joue, puis la voix qui part sur un silence, et puis l'orchestre qui répond, etc. C'est-à-dire finalement, on a réduit le morceau à tous, disons, les éléments les plus spécifiques de son genre. Son genre, des musiques dérivées du blues et du rock. Également, on peut réduire un titre à sa star. Alors là, c'est un peu plus complexe. Mais si vous regardez ce titre-là, classe, Aristo, parce que jazz.
Pas pour le rouge. Très bon choix, monsieur. Non, non, plus de noir. Voilà. C'est aussi ma couleur préférée.
Là, en fait, alors si vous êtes un amateur de jazz, Vous avez probablement entendu, ça c'est la manière de sonner des quartets d'Herbie Hancock. Typiquement, alors c'est pas directement un titre, voyez, c'est plutôt cet artiste-là. Cette manière de placer le rythme, de placer les voicings piano, avec des trompettes un peu très filées à la Miles Davis, etc. Voilà. Également Watermelon Man. Voyez, c'est exactement ce type-là. Quelqu'un qui connaît bien le jazz va entendre un truc à l'Herbie Hancock. Bref, en gros, pour conclure là-dessus, on voit que finalement, les démarques, qu'est-ce que c'est? Puisque justement, je vous expliquais, bah, en gros, on n'avait pas le pognon qui aurait permis de faire une synchronisation, et on est allé demander à quelqu'un de faire un enregistrement qui y ressemble. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, est-ce que ce n'est pas, et en tout cas, moi, c'est ce que je défends, une manifestation dans la musique des tensions qu'on voyait déjà tout à l'heure au niveau économique. Je vous ai dit qu'il y a une tension dans la définition socio-économique de la musique de publicité entre d'un côté une logique qui vient de l'industrie musicale et qui cherche à produire du droit d'auteur, de la vente de licences, etc. et une logique qui vient du conseil. Qu'est-ce que c'est qu'une démarque si ce n'est la matérialisation de ça, mais dans la musique? C'est-à-dire que on a, avec le conseil, réussi à, d'une certaine manière, passer outre les besoins, les demandes des logiques éditoriales. Voilà. En tout cas, je pourrais aller plus loin, je m'arrête là parce que je vois que j'ai dépassé, mais voilà à peu près ce que je voulais vous montrer. Et tout ça pour vous dire la chose suivante, finalement. C'est que, il me semble qu'on voit là ce que peut porter l'analyse des textes dans le cadre d'une économie politique de la communication sur les mutations des industries culturelles. C'est-à-dire qu'on saisit là, on peut essayer d'aller vers la saisie des rapports entre les rationalisations socio-économiques, les logiques socio-économiques et les rationalisations des contenus. On voit aussi l'interprénétration, parce que quelquefois les logiques de contenu, ce sont elles qui orientent les possibilités économiques. La démarque, typiquement, c'est parce que la musique fonctionne de cette manière-là, parce que la musique a cette fluidité qui fait qu'on peut évoquer des choses mais sans utiliser véritablement le matériau qui habituellement les évoque, qu'on peut créer toute une économie de cette manière-là. Donc on voit bien qu'il y a des déterminations d'un côté, des logiques économiques sur les contenus, mais aussi ces déterminations sont en retour déterminées par la qualité matérielle de certains des contenus. Et donc, voilà ce que je cherche à défendre. Alors là, je vous en ai fait vraiment une toute petite part, hein, mais c'était pour essayer de vous ouvrir à cette idée-là. Évidemment, ce qu'il y a derrière ça, c'est, il me semble, toutes les possibilités d'analyse justement de l'idéologie, des rapports entre les bases économiques et les superstructures et les productions de discours, de certains types de discours plutôt que d'autres, etc. En tout cas, peut-être qu'on ira plus loin dans cette direction pendant la discussion. Merci à tous.
Ouais, merci Christophe. Alors, on va peut-être commencer, comme je l'avais proposé au départ, aller à l'Université Laval pour les commentaires, les questions, et puis on reviendra à l'UQAM après. Arnaud ?
Ouais. On va fermer le micro, est-ce que vous nous entendez?
Très bien.
Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur la présentation?
Moi, j'en avais une. Comment est-ce qu'on pourrait refaire une analyse des textes qui soient, disons, codés de façon semblable pour différentes personnes pour créer quelque chose d'un peu plus standard, réplicable? Même si c'est un petit peu c'est pas la même école que la Dordogne, mais c'est quand même.
Je ne suis pas certain de comprendre la question. C'est-à-dire, en fait, comment adapter ce type d'analyse à d'autres objets, c'est ça que vous dites?
Ça peut être la musique, mais surtout à d'autres musiques. En fait, comment est-ce qu'on crée une analyse de texte musical qui ne sera pas seulement basée sur une expérience musicale, par exemple?
Disons que c'est à chaque fois, selon les matériaux qu'on analyse et la perspective qui est la nôtre, qu'il faut recréer les méthodologies. Par exemple, j'aurais pu vous parler, c'est ce que je m'étais posé la question que je ferais, de la notion de star, par exemple, dans l'industrie musicale. Quand, regardez, je dois l'avoir... non, je ne l'ai pas sous la main, tant pis. Ok, si, peut-être. Non, parce que c'est très intéressant la question que vous posez, en fait. Je ne sais plus où c'est... Bon, renseignement, Paris 8... Je suis désolé, je vous sors un cours, mais c'est parce que il me semble qu'une partie de la réponse que je voudrais vous apporter est là. Si vous prenez par exemple la star Johnny Hallyday, ouais. Pardon, hein. Oh là là, pardon. Si vous prenez la star Johnny Hallyday, que j'imagine vous écoutez régulièrement, bon. Les stars, qu'est-ce que c'est? En fait, bah, il faut faire une analyse des stars économiquement. L'économie politique va vous dire, bah, voilà, les stars, c'est une stratégie économique qui fait que, eh bien, on va, comment dire, on va essayer de concentrer un certain nombre des demandes pour de la musique vers, eh bien, les gens qu'on connaît déjà, qui ont déjà marché, donc en créant des stars, des figures de stars, etc. Sauf que si on va plus loin, une star, c'est quelque chose de tout à fait particulier. C'est-à-dire que dans la musique, eh bien, il y a des déterminations. Le fait d'utiliser Johnny Hallyday, en réalité, le chanteur en tant que star fait partie de sa chanson, si vous voulez. Et ce que va venir dire Johnny Hallyday, notamment dans son album, qui était présenté comme un album de blues, etc., machin, machin, tout ce qu'il va dire quand il va dire « je », c'est quelque chose qui participe aussi de cette création de discours. Tout comme la création de discours sur voilà, Johnny Hallyday, connu dans le blues, etc., etc., eh bien, comment dire, disons, tous ces discours vont déterminer aussi la manière de créer les arrangements, par exemple, pour essayer de donner un aspect bluesy, pour essayer de produire un texte qui ne serait pas le même que si on avait une petite star. Vous voyez, là, lui, là, je ne sais pas, c'est son 45e album studio. Évidemment, les textes, j'entends les paroles, les chansons vont être celles de quelqu'un qui vient livrer son expérience, justement, de mec à qui on l'a fait pas, dans le blues. Il y a une chanson, c'est con, je ne l'ai pas sous la main, mais il y a une chanson, très clairement, qui vous explique qu'il sait faire une chanson de blues. Voilà. C'est-à-dire qu'on vous montre que, bah voilà, je sais, il faut des mots écrits sur des musiques, ceci, cela, et ça fait chavirer les foules. Et il vous montre hein, que lui, il sait faire. Et donc, en réalité, les chansons elles-mêmes, là, les textes, sont, là encore, dans un rapport de détermination et de détermination, dans un sens et dans l'autre, elles sont déterminées et elles déterminent, et bien là encore, toutes les rationalisations économiques qu'on peut faire avec, en produisant une star. Et je crois que, bah, du coup, pour disons, répondre à votre question et pour conclure, je crois qu'en réalité, les analyses des textes à chaque fois doivent être faites en fonction de l'analyse qu'on veut mettre en œuvre. Et en tout cas, disons que je pense qu'il faut à chaque fois toujours se plonger dans, comment dire, dans les contenus pour s'apercevoir que, eh bien, en réalité, on y voit assez vite des liens avec certains types de logiques. Et lorsqu'on commence à en voir, un peu comme pour tout type d'analyse, lorsqu'on commence à en voir, il faut essayer de produire des hypothèses avec ça et faire des analyses plus générales pour, là encore, voir si les hypothèses se confirment. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
Oui.
Ils sont là. Mais non, c'est pas ça, c'est que je vous voyais pas. Là, maintenant, je vous vois.
Ok. J'aurais une question pour peut-être demander d'aller un petit peu plus loin sur une chose que vous avez abordée dans le résumé, mais aussi dans l'introduction. C'est l'idée que les logiques socio-économiques, on va dire, pour dire ça simplement, pouvaient tourner ou détourner les textes, les contenus, etc. Et vous disiez aussi que potentiellement, les textes et les contenus pouvaient forcer les logiques socio-économiques, ou pouvaient forcer les modes de valorisation. Est-ce que vous pourriez peut-être un peu développer ça, nous expliquer comment ça, comment vous postulez que ça peut fonctionner entre guillemets dans les deux sens, qui est peut-être quelque chose d'un peu d'original, justement de dire bah, les textes et les contenus, surtout les textes et les contenus peuvent forcer ces logiques de valorisation.
Oui, bien sûr. Mais c'est un peu ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que à la fin de ma présentation, j'ai été un peu rapide dessus. Mais merci du coup de me permettre de développer. Il se trouve que reprenons l'exemple de la démarque. La démarque, c'est à la fois une manière de penser le contenu, entre guillemets, et sa propre détermination socio-économique. Mais si vous voulez, je ne sais pas si on peut imaginer des démarques dans l'industrie du film. Parce que si jamais ça ne fonctionne pas de la même manière. La musique étant ce qu'elle est, et pouvant justement charrier des significations, mais comme ça, de manière immatérielle, fluide, et ayant cette particularité que, ben voilà, un certain type de matériau va pouvoir évoquer certaines valeurs, et un autre matériau qui, sans être le même, peut évoquer la même valeur, mais va pouvoir être utilisé à sa place, tout ça me semble être justement un point qui montre comment. Là, c'est la musique, si vous voulez, c'est la musique qui crée les démarques, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est parce que la musique permet de faire des démarques qu'économiquement on en fait, vous voyez. Et je pense que. Alors, je sais pas dans le film, je connais pas, mais je vois pas comment dans le film on en ferait. Alors, on ferait d'autres manières. Mais voilà, là, il me semble que c'est un exemple très typique. De la même manière, et pour revenir un peu sur l'exemple que je donnais à l'instant, quelqu'un. J'avais parlé avec un responsable de maison de disques, justement à propos de Johnny Hallyday, qui m'expliquait que la stratégie qu'on va mettre en place pour produire Johnny Hallyday a rien à voir avec celle qu'on va utiliser pour produire Alizé, vous voyez, ou je sais pas qui, parce que eh ben, c'est pas la même personne. Il a pas écrit, enfin, il a pas chanté le même nombre de musiques. Dans l'album dont je vous parlais à l'instant, il y a des références à des musiques qu'il a déjà faites, etc. Et donc, l'ensemble des matériaux promotionnels doivent aussi faire avec ces éléments-là, etc. Donc, vous voyez, là encore, il me semble qu'il y a ces formes de détermination réciproque, disons, parce que, évidemment, la détermination fonctionne aussi et surtout dans le sens de la logique économique qui impose certains types de rationalisation. Sauf que tous les types de rationalisation ne sont pas possibles. Voilà. Donc, la musique, des fois, ne permet pas certains types de rationalisation et en pousse ou invite à en produire d'autres. Je ne sais pas si je vous ai répondu pleinement. Mais...
Si, est-ce qu'il y a une autre question ? Je vais permettre une autre question, une deuxième question qui va être un peu en prolongement de ces tensions entre texte et logique. C'est parce que ça a été mentionné un peu le décalage autour du droit d'auteur. Les tensions sur la mobilisation du droit d'auteur, mobilisation plus de logique de conseil. Ce que je me demandais, c'est si on s'éloigne un peu de la musique de publicité et qu'on a commencé à faire, qu'on va regarder la musique, l'industrie musicale dans son ensemble. Est-ce qu'on peut retrouver les mêmes logiques, ou en tout cas on peut réfléchir à les mêmes logiques, à la fois sur l'industrie musicale, ce qui je pense que c'est aussi un peu le sens de la question précédente. Est-ce qu'on peut voir surtout, là c'était une référence à d'autres travaux que vous avez faits, est-ce qu'on peut voir aussi des autres logiques, par exemple dans l'adaptation à de nouvelles formes de distribution, de diffusion, dans vos plateformes numériques, comme Spotify, iTunes, que vous avez mentionné tantôt. Donc est-ce qu'en faisant un peu un pas d'écart, comme ça a été le cas autour de la question de la star et de la marque que peut être Johnny Hallyday, est-ce qu'on peut retrouver un peu, ou déployer ce même type d'analyse, et surtout dans ce cas-là, comment on peut le faire, comment vous verrez.
Oui, merci encore pour cette question qui va me permettre de vous montrer. Je vais revenir un peu sur justement sur ce que je racontais, si ça veut bien. Non, c'est pas ça. Voilà, très bien. C'est une présentation que je faisais ici même au printemps dernier. Je vous montre un exemple. Est-ce qu'on a du plein écran comme ça ? Si vous voyez plein écran.
Oui, c'est
voilà.
Bien.
Merci. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez à Laval. Est-ce que vous voyez c'est...
Oui.
Ok. En gros, typiquement, la distribution par les plateformes, vous savez, type Spotify, Deezer, Napster, etc. C'est également un modèle d'intermédiation. Et en réalité, quand vous allez voir les acteurs, c'est un travail en cours, hein, donc c'est plutôt des hypothèses que je vous présente, mais en réalité, il y a un élément stratégique dans ce type de distribution-là, qui sont la définition, là où j'ai mis les flèches, justement, là encore, des mots-clés qu'on va associer à certains titres et à certains artistes. Tout comme les mots-clés dont j'ai parlé dans l'industrie publicitaire, c'est exactement la même chose. Et les éditeurs se battent lorsqu'ils envoient leur bande à, enfin leur catalogue à Napster, Deezer, etc., pour produire des textes de présentation qui permettent un référencement de ces mots-clés de la manière la plus efficace qu'il soit. Parce qu'ils savent très bien que le but, si vous voulez, c'est que soit, si le morceau est assez connu, qu'on puisse le retrouver très facilement, mais si jamais il n'est pas très connu, qu'on puisse l'avoir dans les choix qui sont proposés par l'algorithme lorsqu'on va en voir un qui est très connu. Et donc la définition, là encore, si vous voulez, de ces mots-clés est, tout comme dans l'industrie publicitaire, absolument fondamentale. Et il me semble que, eh bien là encore, on voit bien la même logique à l'œuvre, si vous voulez. C'est-à-dire que ce qui se passe, et alors c'est un peu une étude que je commence en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on invite notamment certains artistes à essayer de se plier, en tout cas dans les présentations qu'ils font eux-mêmes de leur musique ou dans certains titres qui vont être les premiers de l'album, etc., à se plier justement à être au plus près possible de ce qui va sous le mot-clé, voyez, ou sous la catégorie générale, en réalité. Il me semble que c'est quelque chose qui va à peu près dans le même sens que ce qu'on a vu. Et enfin, pour revenir, pour sortir vraiment, alors là, même de l'intermédiation, disons, en général, quoique, et de la musique de publicité, moi, il y a une question qui m'intéresserait, et, enfin, j'ai déjà la réponse, hein, mais donc, j'ai jamais écrit le texte qui va avec. Reprenons l'exemple que je prenais tout à l'heure, si vous le voulez bien, sur ce truc-là. Donc ça, on a dit, c'est une démarque de ça. Bon, etc., qui va plus loin. Sauf que ça, est-ce que ça ressemble pas à ça? C'est un autre morceau de l'industrie musicale. Bon, etc., Lust for Life, Indie Hip Hop, vous avez le même riff là qui est employé. Mais ça, est-ce que ça vous rappelle pas ça? Bref, on pourrait même aller jusqu'à dire que l'industrie musicale elle-même se pompe en permanence et que, en réalité, le système de rationalisation du conseil n'est ni plus ni moins que le système de rationalisation de l'industrie musicale poussé à son comble, si vous voulez. Voilà. Donc il me semble que finalement, l'analyse, c'est pour ça c'est ce que je disais, l'analyse de la publicité permet de voir ça de manière très visible, mais ce sont des tendances qu'on voit, il me semble, opérer partout dans l'industrie musicale.
Mais ça, c'est pas lié aussi à une dimension intrinsèque de la culture, mais qui est déjà évoquée aussi dans les industries culturelles, du fait de la cumulativité de l'art. Et c'est vrai que toutes les semaines, quasiment, on entend, on nous sort un tube en disant il a été pompé d'un tel tube, et à chaque fois on dit ah ouais, ça ressemble vachement, mais c'est aussi comme ça que se crée la culture, cette dimension cumulative. Alors, est-ce que c'est plus présent aujourd'hui? C'est ça que tu veux dire ou...
Non, alors, disons que là, c'est là qu'arrive vraiment l'analyse musicale. C'est-à-dire, justement, alors moi, les théories sur lesquelles je m'appuie pour dire ça, donc très liées à l'industrie culturelle au singulier, à Adorno, Horkheimer, etc., t'expliquent que non, ça crée du même, quoi. Ça crée du même. Alors, en effet, on peut remarquer qu'il y a des micro-différences, etc., mais du point de vue du contenu véritablement qui est produit, c'est strictement la même chose. Et c'est, tu vois, une sorte de babillage permanent qui est le même et qui, si tu veux, n'est pas le même quand, et c'est ce qui est le cas des penseurs de l'industrie culturelle, quand on réfléchit par rapport à ce que seraient les avant-gardes, par exemple, et ce que serait la catégorie de nouveau, par exemple, dans l'art, etc. Alors, c'est pas une question simple, hein, on n'est pas obligé obligé de souscrire à ça. Hein, et en effet, il y a des choses qui, des fois, ressemblent et sont la même chose que le truc qu'on a entendu la semaine d'avant, et qui ont un effet sur nous absolument considérable. Ça m'arrive aussi, vous voyez, je pouvais pas supporter le tube de la semaine dernière, et le tube de cette semaine qui lui ressemble, il me touche énormément. Tu vois, c'est pas simple. Mais en tout cas, disons que ce qui est étrange, c'est que c'est à chaque fois des nouveautés qui sont quand même données pour nouveautés, mais dont l'essentiel de la production consiste en créer cette quadrature du cercle qui est de toujours créer le nouveau, mais sans s'éloigner de ce qui a déjà marché, donc en étant pareil que lui. Tu vois, et qui est poussé à son paroxysme dans les démarches publicitaires. Et sachant que c'est assez marrant parce que les démarches publicitaires, d'ailleurs, s'il y a des gens que ça intéresse, on peut travailler ensemble, il n'y a pas de souci. J'ai des tas de trucs à faire analyser parce que c'est très long à analyser. Et les démarches publicitaires, le problème, c'est que quand on les écoute, il faut être super alerte parce que moi, je sais que quand j'en repère une, j'en ai raté 5. Quoi, parce que c'est tellement fait pour ressembler à un autre morceau que quand on les analyse, on a l'impression d'entendre le morceau. Et des fois, on ne fait pas gaffe. Tiens, on dit hop, synchro. Et en fait, il faut vraiment soit être guidé par les gens qui les ont fait, soit vraiment avoir complètement en tête le morceau en question. C'est vraiment pas simple. Quoi. Et donc voilà, ça demande vraiment cette volonté d'aller dans les contenus. Je sais pas si je t'ai répondu, je fais un gros gloubi-boug. Je suis désolé, je suis un peu fatigué de ma conférence.
J'ai une question pour toi, Christophe, en repartant un petit peu de ce que tu as dit, peut-être en m'éloignant légèrement du sujet, mais est-ce qu'on n'atteint pas finalement un moment où dans la création musicale globale, que ce soit pour la musique, le film ou la publicité, on n'arrive pas à un moment où finalement on a tellement créé qu'il y a peut-être moins à créer dans la nouveauté, ou deux questions en une, est-ce que quelque part on n'a pas aussi un désir de faire revivre et continuer à faire vivre des musiques que l'on aime?
Quelle question? La première partie de la question, il y a moins à créer. Si on en reste aux catégories qui sont les catégories de l'industrie culturelle, il n'y a même plus à créer. Et c'est absolument fou qu'on réussisse à créer chaque jour la même chose que la veille, quoi, en changeant la couleur des cheveux, tu vois, le réglage de l'ampli, etc. Mais si tu veux, il n'y a pas moins à créer du point de vue, enfin, tu vois, si tu vas voir quelqu'un qui produit de la musique électroacoustique, tu vois, ou des avant-gardes musicales, pas qu'il y a moins, qu'il y a plus à créer, tu vois, au contraire. Mais alors, en effet, il faut sortir de la gamme à 7 tons, il faut sortir de toutes les harmonies qu'on a utilisées, réutilisées, réutilisées, etc. Il faut sortir de des instruments qui sont toujours les trois mêmes, tu vois, basse, batterie, tu vois. Il y a à créer, en fait. Mais le truc, c'est que l'industrie musicale, ayant historiquement aussi eu besoin de créer des succès, eh bien, on a fini par recréer toujours, si tu veux, ce qui se rapprochait au plus du succès initial. Je ne sais pas, Jacob vous a peut-être parlé de ça, c'est un truc qu'on utilise souvent en cours, on fait le même cours. Je ne sais pas si je l'ai sous la main, mais vous savez qu'avec 4 accords, on fait 95% de la musique que vous avez tous écouté toute votre vie. Quoi. Tout. Avec les 4 accords, vous, je ne sais pas si je l'ai. Vous le connaissez probablement, on le trouve sur YouTube.
C'est la mineur fa do sol.
Voilà, 6-4-1-5. Voilà. Mais ben, et si tu peux commencer sur do, ça fait 1-5-6-4. Je ne sais pas si je l'ai sous la main. Je vais regarder. Si je l'ai, je vous le filme. Je suis venu avec tout, vous voyez. Je vais regarder là.
Ah, t'es super ordonné. Hein.
Bah, j'essaye. J'ai rangé avant de venir. Ah, il est là, regardez. Bon, vite fait, hein. Donc là, on a 4 accords derrière. Hein. Faites pas gaffe aux images, ça fait des débiles. People killing, people dying, children hurt, and you hear them crying. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Forever young, I wanna be forever young. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Vous pouvez chanter plein d'autres, Aïcha en français, je n'ai qu'une seule vie, les derniers seront les premiers, hop, c'est là. Bon, etc. Donc là, si tu veux, c'est pas qu'il n'y a plus rien à faire, c'est qu'on a délibérément cherché à faire pareil, tu vois. Et à tel point que ça devient des conventions, tu vois. Je sais pas si vous avez ça. J'ai fait comme tout le monde quand j'étais adolescent.